prier avant et je vais laisser Alain prier pour l'offrande et le temps de prédication.
Eh bien, merci Seigneur pour ce temps d'offrande. Toi, en Jésus-Christ, tu nous as donné tout, y compris ta vie. Alors Seigneur, merci de nous rendre généreux pour rendre un tout petit peu ce que tu nous as donné en si grande abondance. Et merci aussi, Seigneur, pour ce temps d'explication de ta parole. Là aussi, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, pour comprendre en profondeur et pour mettre en pratique ce que nous allons entendre. Amen.
Amen. Amen.
Écoutons, alors ça commence. Écoutons dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, versets 7 à 13, et après je verrai verset 19. Comprends ce que je dis. Du reste, le Seigneur te fera comprendre tout cela. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon l'évangile que j'annonce, et pour lequel je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Il est digne de confiance cette parole. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Au verset 19, néanmoins le solide fondement posé par Dieu demeure, il a pour sceau cette parole, le Seigneur connaît les siens, et encore, qu'il s'éloigne de l'iniquité quiconque invoque le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comment pouvons-nous savoir si nous sommes sauvés en Jésus-Christ? Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment savoir si j'ai la foi en Jésus-Christ ou comment savoir si je meurs avec lui? La première chose à savoir, c'est est-ce que j'ai une relation personnelle avec le ressuscité? Ce qui est difficile avec Dieu, c'est que notre relation avec lui est différente de celle que nous avons entre nous. En effet, j'ai une relation avec mon épouse et cela se traduit par des temps d'échange. Je parle à mon épouse et mon épouse me parle. Il y a un échange dans les deux sens, ce qui crée une relation. Et cette relation, elle se passe de façon orale. On est d'accord. Notre relation avec Dieu se traduit aussi par des temps oraux. En effet, tout chrétien prend du temps dans sa journée pour parler à Dieu. Il est important de prendre du temps pour parler à Dieu, mais pas seulement pour toujours lui demander des choses ou lui dire merci, mais tout simplement pour lui partager ce que nous vivons. Vous vivez quelque chose, je vivais moi ce week-end à un scout et je lui partageais mes joies, mes peines. Seigneur, je suis content d'être là avec les enfants. Merci pour cette grâce que tu me fais. Là, j'ai un petit peu de soucis, je ne sais pas comment je vais faire pour le jeu cet après-midi, mais bon, j'espère que tout se passera bien, tu es là. Alors, je lui parle. Nous lui parlons. Voilà. Là, c'est facile. Mais là où les choses vont un peu se compliquer, ce qui est un petit peu plus difficile, ça va être d'écouter Dieu. Parce que là, ça ne se passe pas de façon orale. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Il y a toujours des témoignages de personnes qui nous racontent qu'ils ont entendu la voix du Seigneur. Mais bon, je pense que sur 100 personnes, au maximum, il va y avoir une personne qui va nous le dire, et quelquefois même zéro. Dieu nous parle, oui, c'est une certitude, mais pas de façon orale. Alors, il nous parle de plusieurs façons. La première, vous la connaissez. C'est laquelle? Comment Dieu vous parle, premièrement?
Par la Bible.
Par la Bible. Voilà. Là, c'est la chose la plus simple, c'est la Bible. Donc, il est très important de lire sa Bible de façon quand même quotidienne, parce que sinon, on va quand même avoir du mal à pouvoir savoir ce que le Seigneur veut pour nous. Mais il y a une deuxième façon. C'est que Dieu nous parle à travers les événements et les gens de notre vie. Tout le long de la journée, soyons attentifs aux événements et aux personnes qui nous parlent et posons-nous cette question: comment Dieu s'est manifesté à moi cette journée? Dieu se manifeste à nous de différentes façons. Mais quoi qu'il arrive, soyons conscients que si je ne prends pas du temps pour parler à Dieu et lire ma Bible, je serai moins attentif quand Dieu va me parler. C'est comme quand on va parler avec un Anglais ou un Russe. Il faut qu'on apprenne la langue russe, qu'on apprenne la langue anglaise pour pouvoir comprendre la personne. La Bible, c'est un petit peu comment s'appelle anglais-français, si c'est le dictionnaire anglais-français. Moi, c'est renverso sur Internet, c'est un peu ça, la Bible. Elle nous permet de détecter quand Dieu est en train de nous parler et quand Dieu n'est pas du tout en train de nous parler. Et l'un des problèmes qu'on va pouvoir aussi rencontrer, c'est de faire la distinction entre l'esprit et ma chair. De quand Dieu me parle réellement, et quand moi je fais parler Dieu à travers ma chair. Je ne vais pas aller trop loin dedans, mais c'est vraiment important, c'est là où les choses un peu se compliquent. C'est que dans une même journée, avec les mêmes événements, on pourrait avoir deux conclusions différentes. L'une qui est la bonne, celle de l'esprit, et l'une qui serait mauvaise, celle, entre guillemets, de la chair. Et si nous ne prenons pas ce temps de prière et de lecture de la Bible quotidienne, on risque vraiment de se tromper et de croire que Dieu me parle, alors qu'en fait c'est pas Dieu qui me parle, c'est moi-même qui utilise les choses pour faire croire que Dieu me parle et d'aller là où moi j'ai envie d'aller. Alors comment savoir maintenant si finalement je suis vraiment dans le vrai dans ma vie, ou est-ce que je suis, excusez-moi, dans la tromperie dans ma vie? C'est ça qui est difficile, parce que tout croyant se pose cette question. Et si vous ne la posez pas, posez-vous là, parce que c'est important. Suis-je vraiment sur le chemin que Dieu veut pour moi, ou suis-je sur le chemin que je me suis inventé que Dieu voulait pour moi? C'est un peu dur, mais il faut se poser cette question. Parce que malheureusement, je connais des personnes, et moi-même, je me suis quelquefois trompé, et je me suis engagé sur un chemin que je pensais être celui du Seigneur, et qui en fin de compte venait profondément de ma chair. Alors il y a un moyen de savoir quand même si je suis sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Et nous allons lire en Matthieu 7, versets 17 à 23. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage biblique nous dit deux choses. La première, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si je suis sur le chemin que Dieu veut pour moi, je porterai de bons fruits. Et quand on parle de fruits spirituels, bien sûr qu'on parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité et de la maîtrise de soi. Mais il faut faire attention. L'homme qui n'est pas soumis à l'action de l'esprit ne pratique que les œuvres de la chair. Et nous aussi, ça se complique un peu, mais on va y arriver. Parce que c'est pas. Il y a l'amour qui est produit par l'esprit, et il y a l'amour qui est produit par la chair. D'accord ? Un non-croyant peut aussi avoir de l'amour, peut aussi avoir de la maîtrise de soi. Mais la source n'est pas la même. J'ai appelé mon pasteur préféré, Serge Rebruteau, qui tient beaucoup les fruits de l'esprit, pour parler avec lui comment faire la distinction entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Parce que c'est aussi une question qui n'est pas facile. J'ai pris une définition, un petit passage que j'ai trouvé sur Internet, que je trouvais sympathique pour renforcer qu'est-ce que c'est que ce fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 19 à 21, nous trouvons une liste de ces œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit ne provient pas de quelque chose de naturel qui se trouve en nous, mais de la nouvelle vie que l'Esprit Saint produit en nous, et par sa constante présence en nous. Le fruit de l'esprit n'est pas écrit au pluriel, les fruits, comme le sont les œuvres de la chair. Cela nous montre un fruit unique. Et l'image la plus représentative de ce fruit est la grappe de raisin, un fruit unique composé de plusieurs grains. Chaque qualité évoquée ne sera qu'une partie de cet ensemble. Je reprends. Quand on parle des fruits, du fruit de l'esprit, c'est plusieurs qui en font qu'un. Ça veut dire que si on possède ce fruit, on les possède tous en même temps. C'est pas possible de posséder que l'amour sans la maîtrise de soi. C'est un ensemble qui nous est donné, qu'on ne peut séparer. Donc un non-croyant peut avoir que l'amour, que la maîtrise de soi, etc. Il est plus difficile qu'il ait tout l'ensemble sans que l'esprit le porte. Et ce fruit de l'esprit, on le remarque après notre conversion. Parce qu'une fois qu'on se convertit, l'esprit vient en nous et nous fait produire ses fruits. Et ces fruits, normalement, on ne cherche pas à le faire, il se fait naturellement en nous par l'Esprit Saint. Donc plus je vais être sur le chemin que le Seigneur a prévu pour moi, plus ces fruits vont devenir nombreux dans ma vie, plus ils vont se manifester. Et plus je vais m'éloigner du chemin de Dieu, moins ces fruits seront visibles dans ma vie. Comment savoir si je suis dans l'erreur ou dans la vérité? C'est en fonction des fruits que je produis. Et de comment je les produis. Parce que si je les produis parce que je force à produire de l'amour qui est hypocrite, ça c'est que la personne qui peut le savoir, nous savons que c'est faux. Parce que cet amour, c'est l'amour agapé. Là aussi il y a une différence. C'est un amour complètement désintéressé. J'aime pas pour ce que les autres peuvent m'apporter, mais uniquement pour qu'ils sont des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. La source est importante dans ce fruit de l'Esprit. La source, c'est le Saint-Esprit, et qui le produit en nous d'une façon naturelle. Ainsi, je peux savoir si ma relation avec Dieu est réelle, je le répète, si je porte ce fruit de l'esprit. Du coup, c'est important de temps en temps fermer la porte de sa chambre, prendre le temps de la méditation et de se dire: Seigneur, ai-je vraiment le fruit de l'esprit dans ma vie? ne sais pas si vous le faites, je le fais souvent, j'essaye de me rémunérer tout ce que je fais dans ma vie et j'essaye de savoir si c'est en accord avec la parole de Dieu, si j'ai eu ces fruits de l'esprit durant ces moments-là. Et ça, c'est un travail dur qui demande beaucoup d'humilité parce que ça nous arrive de nous tromper de chemin. Et alors, il faut le reconnaître et dire, ben, en fait, non, je me suis trompé de chemin. J'étais persuadé que c'était ce chemin-là et en fait, c'était ma chair qui me conduisait là. Et dans l'humilité, il faut dire, ben, Seigneur, je te demande pardon, je veux faire marche arrière et je veux reprendre le bon chemin avec toi. Pour reprendre le passage biblique, hein, oui, c'est Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ce passage nous dit aussi que ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Je peux avoir de belles paroles, de belles prières, mais qui en réalité sont vides. J'ai entendu le témoignage, c'était Patrick Fontaine, peut-être vous en avez entendu parler, il disait... Il priait pour les malades, il guérissait les malades, et il était super content. Et des gens venaient à lui, et puis au nom du Seigneur, il les guérissait, et il était super content. Et à un moment donné, il tombe malade, et il raconte qu'il est en train de mourir. Il se voit monter au ciel auprès de Jésus. Et là, il dit, ouais, c'est bon, je suis génial, j'ai guéri, etc. Et plus il se rapprochait de la présence de Dieu, plus il se sentait petit, et il dit, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il a dit, mais je ne te connais pas, tout ce que tu as fait là, c'était pour ta gloire que tu l'avais fait. Alors, il revient à la vie, et il raconte qu'après, il a fait les choses différemment. Il ne faisait plus le « mais tout simplement, il disait, que le Seigneur te blesse. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il instrumentalisait le Seigneur pour se glorifier. Et malheureusement, quelquefois dans nos vies, on peut utiliser le Seigneur pour s'élever, pour se glorifier. Et on se trompe de chemin. Et le Seigneur nous dit non, 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 non. Tu as dit Seigneur, Seigneur, non, non, non. C'est pour toi que tu as fait. C'est pour trouver une place dans l'Église. C'est pour dominer l'Église que tu as fait tout ça. Mais je ne te connais pas. Et ça, c'est super dur. Ce qui compte, ce n'est pas les paroles, mais la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Réécoutons la Bible en Matthieu, chapitre 25, 34 à 40, pour vraiment comprendre ce que cela veut dire faire la volonté de Dieu. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? C'est la même réflexion que nous, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne peut pas le vêtir. On ne peut pas l'accueillir réellement. Alors, il se pose cette question, mais comment c'est possible? Et la réponse de Dieu, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, ça c'est important, à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça va marquer à chaque fois que vous avez fait à l'un de ses plus grands. Parce que quelquefois, faire quelque chose au grand, ben, c'est pas mal, parce que le grand, il va vous le rendre, le grand. Le petit, il vous rendra jamais ce que vous lui avez donné. Et faire la volonté de Dieu, c'est ça. C'est prendre soin de son prochain dans un amour agapé, dans un amour complètement désintéressé. J'aide quelqu'un qui ne pourra jamais me le rendre. C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est exercer la miséricorde entre nous. Dieu est miséricorde et il veut qu'on fasse de même entre nous. lorsque Jésus était sur terre, il fréquentait des pharisiens. Je vous le répète, vous le savez déjà, mais c'était des spécialistes de la loi. Et ils étaient là tous les samedis à la synagogue pour louer Dieu. C'était peut-être les plus fidèles des fidèles. Pourtant, vous le savez, Jésus ne les appréciait pas beaucoup. Pourquoi ? Car ils faisaient beaucoup de choses pour se glorifier et montrer aux autres qu'ils étaient plus dignes de la présence de Dieu. Qu'ils étaient plus dignes de Dieu. Jésus préférait être avec des gens qui ne se sentent pas dignes de sa présence et il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je vous l'ai déjà dit dans une prédication, mais je trouve ça important de le redire. Nous sommes tous malades. Et si nous pensons ne pas être malades, nous passons à côté de la guérison de Dieu. Certaines personnes de notre entourage ne sont pas des exemples de foi à suivre, car ils sont très discrets sur leur foi et certains parlent rarement de Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont renié le Christ. Ce n'est pas parce que je ne parle jamais de Jésus que j'ai renié Jésus. Ce n'est pas parce que je ne parle jamais de Jésus que je n'aime pas Jésus. Nous sommes tous différents. Certaines personnes progressent plus vite que d'autres sur le chemin de la sanctification. Mais ce n'est pas cette progression de la sanctification qui nous sauve, on est d'accord. C'est uniquement notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en Jésus qui nous sauve. Par contre, si nous progressons sur le chemin de la sanctification, notre vie terrestre sera plus facile à vivre grâce à Dieu. Parce que plus nous sommes proches de lui, plus nous bénéficions de sa paix, de sa joie, de son amour, etc. Ce chemin de sanctification, il est utile pour notre vie. Mais si jamais une personne n'a pas réussi à progresser sur ce chemin de sanctification, mais qu'il aime le Seigneur, le ciel lui est ouvert. Qui sommes-nous pour le juger ? Il est important de se rappeler que pour Dieu, il n'existe pas de petits ou de grands chrétiens, ou de chrétiens pratiquants et non pratiquants. Ça me fait toujours rire. Je suis protestant non pratiquant, je suis catholique non pratiquant. Mon président me disait, moi je suis nudiste non pratiquant. Je le dis souvent, Patrick, c'est un bel exemple que tu m'as donné. Ça ne veut rien dire. Peut-être ce terme a été utilisé pour culpabiliser les gens. Tu es pratiquant, non, tu es protestant, non pratiquant, mais du moment que tu as une relation avec le Christ, tu es pratiquant. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou pas qui fait de toi un chrétien. Bien sûr, c'est important une fois de plus d'aller à l'église, parce que ça va nous aider à nous rapprocher de Dieu et à mieux vivre sur cette terre. Et si certains font ce choix de ne plus aller à l'église, un mauvais choix, mais ça ne veut pas dire que la porte du paradis leur sera fermée. Ils subiront les conséquences sur cette terre, mais Dieu lui fait grâce. Nous le savons, nous le savons, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais notre foi en Jésus-Christ. Cependant, nos œuvres nous permettent de voir si nous avons réellement confessé Jésus-Christ comme Seigneur. Je le répète, un bon arbre produit de bons fruits. Donc ces œuvres, elles sont quand même importantes, parce qu'elles nous montrent si réellement je confesse Jésus-Christ comme Seigneur ou pas. Voilà, ce n'est pas elle qui nous sauve, mais c'est elle qui nous révèle finalement notre foi en Jésus-Christ. Quand le texte de Timothée nous parle de souffrance, c'est pour nous parler de la difficulté de vivre notre foi dans ce monde. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Dès le début, on parle de souffrance. Dès le début, les chrétiens on subit de grandes souffrances en annonçant le Christ. Il n'y a rien de beau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. En effet, certaines personnes sont hostiles à la foi chrétienne et ils font du mal aux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Timothée parle des souffrances, c'est pour nous encourager à persévérer, car ces souffrances auront une fin et laisseront place au règne de Dieu. Malheureusement, certains chrétiens éviteront les persécutions et ils deviendront infidèles à Dieu. Ils préféreront leur confort plutôt que de voir le royaume de Dieu avancer. Et là, notre texte, tout le début, a une phrase qui me surprend, parce qu'il ne va pas dans la continuité du texte. Quand il dit « si nous lui sommes infidèles », j'avais envie de dire « il nous sera infidèle ». Et en fait, non. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est incroyable, ça, quand même. Car il ne peut se régner lui-même. Pour tous ces chrétiens qui sont infidèles à Dieu, Dieu leur accorde quand même la vie éternelle. J'aimerais ne pas le dire de haut de la chair, mais c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous encourage à être infidèles. On est d'accord. Il faut être conscient que lorsque l'on est infidèle à Dieu, cela l'attriste. Et cela a des conséquences non négligeables sur notre vie. Si je suis infidèle à Dieu, ma vie de foi va être très, très, très compliquée. Et je vais avoir tendance à dire, « Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ? Oh pourquoi il m'arrive ci ? Oh pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Mais tu es méchant ! Oh mais c'est... » Parce qu'en fait, je ne suis pas fidèle à Dieu. Donc du coup, je ne me rends pas compte de ce qui se passe. J'arrive même plus à déchiffrer ce que le Seigneur fait. Ça, c'est pour reprendre l'exemple des scouts. Oh, mais Seigneur, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune qui s'est coupé. Oh là là, mais c'est pas possible. Pourquoi tu me mets dans une situation pareille? J'étais obligé d'aller voir un tel pour qu'il le soigne. J'ai perdu du temps. Mince. En fait, Dieu t'a aidé et tu ne le vois même pas parce que tu es infidèle et du coup, tu n'arrives plus à déchiffrer ce que le Seigneur te donne dans ta vie. Et du coup, tu souffres. Tu souffres parce que tu es infidèle à Dieu. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'accordera, oui, la vie éternelle au moment où tu mourras. Mais peut-être qu'il est quand même temps de redevenir fidèle à Dieu pour pouvoir vivre ses bienfaits au quotidien. Parce que ça, c'est important quand même de vivre ses bienfaits au quotidien. J'ai quand même recherché la définition, parce que je me suis posé la question, quelle différence entre infidélité et renier? Parce qu'il y en a une, forcément, dans notre texte. Quand j'ai pris la définition donc, d'un infidèle, c'est qu'il ne remplit pas ses engagements, ses devoirs, ses promesses. Et renier, c'est déclarer faussement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas quelqu'un. Donc la différence entre renier et être infidèle, vous la comprenez, renier c'est dire « Christ, tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas mon Sauveur, je ne veux plus de toi ». Être infidèle c'est « bon ben le Seigneur nous dit dans sa parole de faire ci et ça, puis bon ben voilà, je ne veux pas être fidèle dans ce qu'il me demande de faire. Et je vais en payer les conséquences sur terre. Mais je ne l'aurais pas renié. Dieu connaît notre nature humaine. Et il sait que notre nature est rebelle et égoïste. Et il a envoyé son Fils sur la croix, car nous ne pouvions pas, par nos propres forces, nous justifier. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, infidèles à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils sur la croix. Donc le but, ce n'est pas de savoir qui dans cette salle est infidèle. Vous voyez, oh là là, on devient fidèle, mais c'est déjà de prendre conscience que moi-même, par moment, je ne suis pas fidèle à Dieu. Prendre conscience de cette gravité qui a dû amener le Christ à la croix. Et de dire, ben maintenant, il faut que je redevienne fidèle. Et c'est pas parce que j'ai été infidèle que je suis un mauvais chrétien, que je ne suis pas chrétien. Et ce qui va faire de moi un bon chrétien, c'est que je vais demander pardon, je vais m'humilier devant le Seigneur, et que je vais laisser l'Esprit Saint me modeler pour être plus proche de lui et progresser sur ce chemin de sanctification. Et je le redis, soyons bien conscients que cette prédication n'a pas pour but de vous dire que ce n'est pas grave d'être infidèle à Dieu. D'accord ? Loin de là, je ne pense pas du tout cela. Mais bon, on peut dire, ben voilà, non, on ne va pas parler des infidèles, on est toujours fidèles, nous, voilà. Mais ça serait hypocrite, il faut parler des choses difficiles. Parce que si nous voulons progresser, il faut en parler. Je me souviendrai toujours de la Croix-Bleue qui me disait, mais les alcooliques, pour qu'ils progressent, il faut qu'ils acceptent qu'ils soient alcooliques. Parce que tant qu'ils n'acceptent pas qu'ils sont alcooliques, ils n'avancent pas. Pour que nous puissions nous aussi progresser dans notre vie, il faut que nous acceptions que quelquefois nous sommes infidèles à Dieu. On pourra lui demander pardon et changer. Et vraiment, cette prédication n'a pas pour but de condamner qui que ce soit, bien au contraire. Le but de cette prédication, c'est qui que nous soyons, Dieu nous tend la main, Dieu veut nous aider à changer. Mais le moins important, c'est nous aider. C'est-à-dire, si je refuse, je refuse. Mais si j'ai envie, il est là, il nous aide, il nous change. Rassurez-vous, je vais conclure. Peu importe qui nous sommes, Dieu ne regarde pas à nos apparences. Il voit notre cœur et toutes les souffrances que nous portons. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de notre cœur et il nous redit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prions. Seigneur, est-ce que ma foi est sincère ? Seigneur, suis-je sauvé ? Et nous savons, Seigneur, que si nous avons confessé que tu es notre Seigneur, nous le sommes. Et nous savons aussi, Seigneur, que nous avons des faiblesses. Ces faiblesses ne nous empêcheront pas, Seigneur, de te revoir un jour dans ton royaume. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à pallier à ces faiblesses, que nous puissions mieux vivre sur cette terre, que nous puissions avoir ces fruits de l'Esprit en abondance pour nos frères et pour nous-mêmes. Que ton Esprit Saint nous visite au plus profond de nous-mêmes et nous révèle là où nous sommes trompés et là où nous sommes sur ton chemin, pour que nous puissions te servir fidèlement et voir ton royaume s'approcher dans cette ville de Thiers, des Sarrets, de Lezoux, de Saint-Rémy et des Avant-Plans. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.